Nous avons essayé de, ensemble, de méditer sur la famille chrétienne en nous servant de ce que nous savions déjà du synode et en liaison un petit peu avec ce mois du rosaire qui est consacré à la Sainte Vierge, hein, sachant que le grand titre de Marie comme mère de l'Église et le moyen qu'elle a donné avec le rosaire de former cette famille de l'Église doit éclairer beaucoup toute notre spiritualité de la famille. Je voudrais aujourd'hui continuer, mais alors en parlant davantage de la Sainte Vierge. Enfin, il y a eu beaucoup d'études encore, mais le synode se termine la semaine prochaine. Samedi, nous aurons peut-être plus d'éléments pour tâcher de revoir un petit peu le message qui sera donné, tâcher de le commenter samedi ou le dimanche suivant. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous reprenions un petit peu tout ce mystère de la famille autour de la Sainte Vierge. Tout d'abord, je vous ai dit que les deux derniers dogmes de l'Immaculée Conception de l'Assomption qui ont été promulgués par les papes, Pie IX et Pie XII, qui a tout un lien avec le point de vue de la famille. L'Immaculée Conception de Marie va se réaliser grâce à Anne et Joachim qui vont se trouver être comme les instruments choisis. Et il y a tout un lien au fond avec Marie comme la fille d'Abraham. Donc, ce dogme de l'Immaculée Conception nous oblige en quelque sorte à voir sous une lumière nouvelle, on peut dire, tout le mystère de l'Ancien Testament, de ce peuple élu, qui, à l'origine, a une famille, et dont le fruit le plus excellent, ça va être Marie l'Immaculée, par qui Jésus va être attaché à la grande famille humaine. Mais Marie sera l'unique lien. Et nous savons que l'Immaculée Conception est très fort en liaison au fond avec sa maternité divine. Mais qui semble que le dessein du bon Dieu, cette Immaculée Conception a été comme préparée. Bien sûr, elle implique un don qui dépasse la préparation. Mais, comme je vous ai dit encore tout à l'heure, dans toute l'histoire sainte, c'est toujours la finalité et dernier qui éclaire tout l'ensemble. Mais il est sûr que pour bien comprendre tout le mystère d'Abraham, il faut le voir à la lumière de celle qui est sa fille par excellence, celle qui l'a glorifiée elle-même dans son Magnificat. Vous voyez, si nous prenons l'Assomption, pour moi l'Assomption est un mystère qui a un très très grand rôle aussi pour éclairer toute la théologie spirituelle de la famille. Vous voyez, parce que Marie va être glorifiée dans son âme et dans son corps sans connaître la corruption du tombeau. Précisément parce que dans son corps, elle a été l'instrument de l'Esprit Saint pour sa maternité vis-à-vis de Jésus, et parce qu'aussi à la croix, elle a été la compagne fidèle. Donc, c'est l'Assomption vient nous obliger aussi à approfondir toutes les conséquences en quelque sorte de l'incarnation. Mais dans le corps de la Sainte Vierge, et donc dans tout ce rôle de Marie dans la Sainte Famille, et le rôle que Marie va avoir comme mère de l'Église dans son corps et comment par Marie, ben, toute la famille humaine est rattachée à la Sainte Famille. Je voudrais vous parler tout d'abord, vous voyez, un petit peu à propos de l'Immaculée Conception. Vous voyez, et je pense que pour nous, comme chrétiens, ben, il faut qu'on tâche de vivre les événements du monde actuellement à la lumière de notre foi et de notre espérance. Vous savez qu'après l'attentat de la rue Copernic, en France, il y a eu tout un mouvement pour unanime, on peut dire, pour montrer que si la réprobation par rapport à un certain antisémitisme qui avait existé de fait. Mais je crois que c'est très très important. De ce que je vais nous tâchons d'approfondir maintenant. Parce que quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir par rapport aux juifs? Vous voyez, peut-être que nous avons quelquefois été un petit peu omnubilés, c'est vrai que parmi les princes des prêtres, en tant qu'ils représentaient le peuple en un certain sens, mais un peuple qui était sous la domination romaine, c'est vrai qu'ils ont condamné notre Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que, si on peut dire, s'il y a eu une blessure, s'il y a eu une division dans le peuple de Dieu, au regard du bon Dieu, dans les desseins de Dieu, pourquoi est-ce que l'Église a gardé l'Ancien Testament? C'est parce qu'il y a toute une... Les apôtres, pour la plupart, sont des juifs. Marie était juive. Donc il y a tout un lien qui reste. Et puis surtout, je crois toujours, qui est très 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 important, c'est de savoir que Dieu est toujours fidèle. Et quand il s'agit des juifs, les paroles de saint Paul sont extrêmement frappantes. Vous voyez, il prend toujours ce point de vue de l'alliance. Il y a une alliance entre le peuple juif et Dieu, avec Abraham et avec Moïse. Une alliance qui a trouvé son sommet au calvaire, qui a été dépassée en quelque sorte, au fond, par la nouvelle religion, le nouveau peuple que Jésus est venu établir. Mais saint Paul montre que toujours, Dieu est fidèle. Et c'est un des grands mystères, c'est que Dieu, même vis-à-vis des pécheurs, il ne retire jamais, vous voyez, les dons naturels qu'il a fait. La race juive a été une race élue par Dieu. Bon, malgré la peau, Dieu n'a pas retiré à cette race les qualités d'intelligence, les qualités qu'il lui a données. Vous voyez, et je pense que comme chrétiens, non pas toujours, comme catholiques, toujours l'attitude que Dieu nous demande. Et vous voyez, quelquefois, dans les critiques que nous faisons vis-à-vis des juifs, quelquefois, ce n'est pas un esprit très chrétien qui apparaît. Vous voyez, quelquefois, une certaine violence qui peut y avoir dans des pays en France, au fond, qui peut y avoir aussi quelquefois en Espagne, qui peut y avoir aussi en Italie, qui vient de nos ancêtres païens et non pas de nos ancêtres chrétiens. Bon, quelquefois, en Allemagne, c'est très 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 marqué. C'est certain que dans l'antisémitisme des nazis, il y avait toute une espèce de, au fond, de réminiscence des barbares germains, si vous voulez, mais que nous avons tous encore dans nos sens cette hérédité quelquefois qui apparaît, alors de mettre en avant une espèce d'aspect de force de violence, mais qui n'est pas du tout chrétien. Alors je pense qu'aussi bien, vous voyez, pour tout le point de vue de la famille, mais pour toute la question aussi de l'antisémitisme, il nous est bon de voir un peu comment le dogme de l'Immaculée Conception donne une lumière à tout ce qui est l'Ancien Testament. Alors, je vous disais que pourquoi est-ce que je parle par sa conception et par sa naissance. Vous voyez, Marie, au fond, est inscrite dans l'histoire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de très mystérieux dans l'Immaculée Conception? C'est que, en même temps qu'elle s'inscrit dans l'histoire, elle donne une dimension d'éternité à cette histoire, hein, dès le moment de sa conception. Oui, sa conception n'est pas une conception miraculeuse. Hein. Bon, Anne et Joachim bien, se sont unis. Hein, Marie est la fille, au fond, de l'amour d'Anne et Joachim l'un pour l'autre. Bon, mais en même temps, dans cette conception, le Saint-Esprit va intervenir pour donner à Marie, dès sa conception, qu'elle va être créée comme une personne humaine, est-ce une exception ou est-ce que toujours ce qui arrive dans la conception, ça nous ne savons pas. Mais enfin, pour Marie, nous savons que c'est dès sa conception qu'elle a une plénitude de grâce, qu'il n'y a que la personne qui peut avoir une plénitude de grâce. Donc la petite Marie, dès sa conception, il y a eu quelque chose. Mais que Marie... Eh bien, comme elle le dit dans son Magnificat, la fille d'Abraham. Vous voyez, et qu'au fond, ça veut dire l'Immaculée Conception, je pense, oblige à revenir encore davantage, au fond, à cette figure extraordinaire d'Abraham. Vous voyez, dans l'Ancien Testament. Vous voyez, parce que, en un sens, Abraham, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, sous certains aspects, dépasse Moïse, enfin, dépasse Élie sur certains aspects. Sous d'autres, Moïse et Élie peuvent avoir des perfections, n'a pas à Abraham. Mais ce qui est frappant quand on regarde l'histoire d'Abraham dans l'Écriture, c'est que sa fidélité à ce que Dieu lui demande. Hein? Vous voyez ? Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que ce peuple élu, qui est le peuple juif, va venir d'une personne. Vous voyez ? Et d'une personne qui va enfanter un enfant qui va être l'enfant de la promesse, qui va être l'enfant de la foi. Vous voyez ? Et on s'est bien marqué, Abraham était vieux, Sarah surtout était vieille, bon, il n'était plus d'âge à avoir un enfant. Abraham a fallu qu'il fasse un acte de foi. Et un acte de foi où il n'a pas été encouragé par Sarah, au fond, qui était un peu ironique, qui n'y croyait pas. Bon, pour que son fils soit conçu. Bon. Et puis ensuite, au moment de l'adolescence de son fils, il va falloir que de nouveau Abraham, alors, fasse un nouvel acte de foi, mais en même temps un acte de foi qui implique une espérance très forte, hein, pour commencer par préparer le fagot et préparer le sacrifice de son fils, partir avec son fils, pour qu'ensuite, hein, Dieu par son ange intervienne et arrête Abraham. Mais vous voyez, je pense qu'à notre époque surtout, on peut comprendre, on peut mieux comprendre ce sacrifice d'Abraham. Vous voyez, prenez un petit peu dans le sens où le pape, dans toutes ses dernières audiences, insiste sur le cœur, hein, en montrant que dans l'homme, au fond, les liens entre cœur et corps, et que tout commence à se jouer dans le cœur. Vous voyez, c'est que l'acte héroïque qui a été demandé à Abraham, et Abraham n'avait qu'un fils, venant vraiment de Sarah. Il n'y avait qu'un fils qui était le vrai fils de sa foi, le fils de son espérance. Hein? Un fils qui devait être pour lui à l'origine de ce nouveau peuple, celui qui était le peuple de prédilection de Dieu. Et voilà que Dieu lui demande de le sacrifier. Même si Abraham, si vous voulez, vous voyez, même si Abraham se disait peut-être qu'à la dernière minute, Dieu interviendra. Mais je crois que où il est le plus, notre modèle surtout, c'est qu'il doit montrer à son fils qu'il aime son Dieu infiniment plus que lui. Vous voyez, parce que l'épreuve pour un père de montrer à son fils qu'il est prêt de le sacrifier, si Dieu le lui demande, c'est là le vrai sacrifice qu'il y a pour Abraham. Vous voyez, c'est au fond de... Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure dans le premier cours, ceux qui y étaient. Vous voyez, parce que c'est tellement frappant de voir que, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu veut nous montrer que dans notre vie morale, oui, que dans notre vie donc, d'homme libre, d'esprit, il faut toujours que nous mettions notre obéissance à Dieu et au Saint-Esprit avant l'obéissance aux hommes. Que nous soyons toujours prêts à nous sacrifier pour Dieu. Vous voyez, au fond, en un sens, si vous voulez, quand notre Seigneur, plutôt que Saint Thomas, la cherchera à l'expliquer, quand notre Seigneur parle du péché contre le Saint-Esprit, non, il s'est posé pour Abraham. Quand il a eu comme la certitude que le Saint-Esprit lui demandait de préparer le sacrifice, d'aller sacrifier son fils, il y a la question de se dire, mais au fond, est-ce que mes obligations de père, est-ce que, au fond, je vais, même si de fait ça ne se réalise pas, mais je vais perdre toute mon autorité de père, mon affection de père vis-à-vis de mon enfant, vis-à-vis de ma tribu, vis-à-vis de tout le monde, en préparant ce sacrifice pour aller sacrifier mon fils. Qu'il fallait qu'avant tout, il au fond, ce soit, il n'est que le désir de faire la volonté de Dieu. Et c'est là le grand exemple d'Abraham. Et c'est très très important, parce que l'Ancien Testament, vous voyez, c'est bien le temps des prophètes. Vous voyez ? Mais pour être de vrais prophètes de Dieu, et on le voit dans l'Ancien Testament, il faut bien croire que le bon Dieu nous donne une mission, mais que cette mission, elle reste toujours soumise à la volonté de Dieu. Vous voyez ? Et qu'on sache très bien que cette mission peut tourner dans un autre sens que celle qui nous penserait. Vous voyez ? Bon, Abraham aurait été un prophète, mais un prophète, comme ça arrive souvent de rencontrer des prophètes. Vous voyez, ils sont tellement attachés à leur rôle de prophète qu'il n'y a plus que ça qui compte pour eux, n'est-ce pas ? Qu'en fait, ça devient une idée fixe, en quelque sorte. Vous voyez ? Et que leur vie est toute orientée vers ce qui leur a été donné comme prophétie. Ça se rend compte que Dieu se réserve toujours, quand c'est une prophétie divine, d'orienter différemment le prophète, et que la réalisation de la prophétie se fasse tout à fait différemment. Vous voyez ? Eh bien, Abraham, comme Marie au moment de l'Annonciation, Abraham lui dit non, ça c'est pas possible, puisque au fond, ce Isaac, c'est lui, au fond, je suis destiné, c'est lui qui doit me donner ce peuple. Mon rôle prophétique, c'est d'avoir mis au monde Isaac. Bon, tant que c'est pas possible, Dieu ne peut pas me demander de le sacrifier. Vous voyez ? Alors que Dieu voulait, au fond, qu'il y ait cette épreuve, vous voyez, avant que la prophétie se réalise. Mais alors, ça nous montre tout de suite, vous voyez, qu'au point de vue, que ce peuple élu, vous voyez, dans cette personne d'Abraham, va être d'abord, à l'origine, une toute nouvelle conception du Père, une toute nouvelle conception de la famille. Vous voyez, au fond, dans le peuple élu, il y a, si vous voulez, il y a comme deux grandes finalités. Vous voyez, il y a la finalité, si vous voulez, de tout le peuple, qui est un symbole. Vous voyez, et au fond, ça c'est très frappant maintenant. On voit toute l'histoire de ce peuple, vous voyez, avec d'abord, c'est au fond, les tribus, c'est pas, les juges, Moïse après, n'est-ce pas, les rois, vous voyez, tout ce peuple a une histoire d'un peuple qui se constitue, commence par être par vivre comme une grande famille, puis qui avec les 12 tribus, puis qui a ses prophètes, puis qui a une loi, puis que Dieu condescend, mais il donne tout de même des rois, qui après les grandes épreuves de tout peuple, les invasions et puis les déportations, qui aura des martyrs de son peuple, tout ce peuple dans son histoire va être déjà comme un prototype, va servir pour nous dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du peuple de Dieu, pour contraindre un peu les exigences de ce peuple de Dieu. Vous voyez ? Et au fond, il y aura beaucoup de choses qui seront reprises en quelque sorte de l'Ancien Testament, dans toute l'histoire de l'Église. Vous voyez ? Mais il n'y a pas que cela dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas là le plus important. Vous voyez ? Au fond, en un sens, le plus important, nous voyons avec Marie, au fond, c'est les patriarches en tant qui constituent une nouvelle famille, une nouvelle vie de famille, de nouvelles attitudes des pères et mères de famille. Vous voyez ? Bon. Et alors, c'est cette famille, c'est là la plus grande gloire d'Abraham au ciel, c'est d'être le grand-père, arrière-grand-père, il y a beaucoup de générations entre les deux, mais tout de même de Marie, et par Marie de Jésus lui-même. C'est Marie qui est au fond la gloire d'Israël, la gloire de la descendance d'Abraham. Vous voyez, au fond, c'est cette humble petite fille qui, elle, n'aura comme rôle que d'être mère, qui, elle, ne sera pas appelée, au fond, à jouer sur la terre le rôle d'un prophète. Il le fera tout à fait en passant par le Magnificat. Le Magnificat n'aura pas une grande répercussion sur le peuple d'Israël, et surtout l'Église catholique qui reprendra le Magnificat, qui profitera du Magnificat de Marie. Vous voyez ? Donc, mais c'est cependant le plus important. Vous voyez ? Alors, je crois que c'est très très important de demander au Saint-Esprit, nous faire comprendre, vous voyez, ce lien entre Abraham, Marie et Abraham. Je vous ai déjà dit, un petit peu pendant la retraite, et insister dessus, mais je crois que c'est très très important, c'est que vous savez que quand saint Thomas d'Aquin parle du péché originel, et le pape reprend absolument ce point de vue, il y a toujours cette question très très importante. Le péché, qu'est-ce que le péché a blessé? Et qu'est-ce qui est resté, qui a demeuré plus profondément que le péché, du don initial qui avait fait à l'homme. Et saint Thomas aime montrer que si le péché, l'homme n'avait pas péché, au fond, la justice originelle aurait impliqué d'autres grâces que Dieu aurait données. Et au fond, saint Thomas montre en particulier que dans la justice originelle, au fond, il n'y aurait pas eu le sacerdoce et la paternité auraient coïncidé. Il n'y aurait pas eu d'état de virginité. Et que par le fait même, parmi les conséquences du péché originel, ça a touché tout particulièrement, au fond, l'homme et la femme dans leur relation, justement, au plan sexuel. Oui, mais c'est très frappant de voir que ce peuple juif, vous voyez, après 2000 ans à peu près, puisqu'entre Abraham et Marie, il y a à peu près 2000 ans, n'est-ce pas ? Ce peuple juif, par ces séries de générations, sera comme purifié, au moins, parmi quelques-uns de ses membres. Vous voyez ? Et que quand Joachim et Anne vont s'unir, pour concevoir Marie, étant donné que Marie sera l'Immaculée, et qu'au fond, on ne parle pas d'un miracle tout particulier, il semble bien que Joachim et Anne ont dû à ce moment-là s'unir d'une façon extrêmement limpide, d'une façon extrêmement pure, pour que le fruit même de cette union soit immaculé. Et donc, Joachim et Anne, vous voyez, arrive comme montrant que au moins dans une série de générations, hein, bon, il y a une espèce de pureté qui a été gardée, il y a une espèce de, au fond, et comme on voit un petit peu dans Prenez Enfance, on retrouve la même chose quelquefois. Vous voyez, il y a certaines familles profondément chrétiennes, mais de génération en génération. Mais c'est très frappant de voir que au cours des générations, il y a une espèce de purification de plus en plus du corps qui se fait, quelque sorte. Vous voyez, et c'est peut-être l'aspect où l'apport des générations qui vous ont précédé est comme le plus sensible. Non, c'est assez compréhensible, puisqu'il y a des conséquences du péché dans ce domaine-là, il y a d'autre part aussi des conséquences d'une grâce qui se sanctifie, qui se rectifie de plus en plus. Bon. Et alors, je crois que ça nous oblige, vous voyez, ce dogme de l'Immaculée Conception, vous voyez, à pressentir, au fond, toute cette sorte de préparation qu'il y a d'Abraham à Marie, vous voyez, au point de vue proprement de la famille, vous voyez, et au fond, ce rôle des patriarches. Hein, et que dans ce peuple, vous voyez, parce que quand on prend le rôle des patriarches, vous voyez, c'est comme les pères de l'Église, dans l'Église de Jésus. Les pères de l'Église, bon, il n'y a qu'une époque qu'on appelle l'époque des pères de l'Église. Hein, mais il y a des chrétiens encore maintenant, qui continue cette grâce des pères de l'Église. Vous voyez, c'est certainement que l'aspect prédominant de la spiritualité chrétienne actuelle, c'est plus, au fond, c'est beaucoup plus celle de Saint, qui a été inaugurée par Saint François de Sales et Saint Vincent de Paul, des tout petits, des pauvres, mais au fond, tout ce qui a été acquis. Le développement de l'histoire se fait par intégration, non pas par soustraction. Non, vous voyez, quand Saint Dominique et Saint François ont fondé leur ordre, où ils mettaient en avant les frères et sœurs, non, mais ils gardaient parfaitement le sens que les supérieurs, ceux qui avaient un rôle de père, devaient garder toutes les qualités de la paternité. Vous voyez, la même chose dans l'Ancien Testament, sous l'aspect prophétique, on voit que cette grâce des patriarches, bon, elle s'est prolongée pendant toute cette époque, vous voyez, pour aboutir à Marie. Dans le même sens, vous voyez, ça nous fait, en voyant cet aspect, ça montre très bien les deux grâces. Hein, que ce peuple prophétique, vous voyez, il va être le peuple où la famille va avoir un sens très très particulier. Mais ça va être aussi un peuple où, comme peuple, il sera élu. Alors là, c'est l'autre aspect qui nous est important de voir, aussi par rapport au point de vue antisémitique. Vous voyez, l'antisémitisme. Pour bien voir les deux aspects et voir comment, quand on regarde à la lumière de la Sainte Vierge, vous voyez comment Dieu veut unir si fort famille et nation. Vous voyez, et ça vous fait comprendre tout ce que le pape reprend, parce que quand il reprend le terme de nation, vous voyez, qu'il a, dans sa prédication en France, il a pris très peur. En Pologne, il reprend. En Italie, il reprend sans cesse. Vous voyez, nous risquons, nous, de ne pas tout à fait le saisir. Vous voyez, parce que dans notre langage français, quelquefois, nation a été un petit peu changée, si vous voulez, avec la Révolution française. Bon, il y avait un certain aspect où la nation, on a perdu un petit peu ce sens, vous voyez, qu'elle se rattache avant tout à la nature, si vous voulez. Vous voyez, et qu'au fond, elle était... Elle a impliqué tout la géographie, pas simplement l'histoire, mais le pays où se trouve ce peuple. que nation est très très accrochée à la notion de peuple. Et cette notion de peuple qui implique ces générations dans un milieu. Donc, vous voyez, qui implique comme vertu propre la vertu de piété, et pas la justice d'abord. Hein? Vous voyez, actuellement le mot État, on le distingue très bien, le mot État du peuple. N'est-ce pas? Et au fond, c'est très sensible, justement, c'est sur quoi le pape insistant en Pologne, par exemple, en montrant qu'on peut avoir un État, au fond, qui est antichrétien, comme État, et puis qu'en même temps, on peut avoir un peuple qui reste profondément chrétien, mais en montrant, au fond, que de fait, et alors en montrant que ce peuple a le droit de demander un changement de l'État. Hein? Oui, mais qu'on voit que les deux réalités sont très différentes. Et je pense que pour que nous comprenions bien le sens de nation, dans le sens où le pape le prend, il faut prendre un petit peu dans le même sens que le peuple. Vous voyez ? Et alors qu'il se rattache très fort à la famille, hein, et, mais qui va impliquer en plus que les liens du sang, hein, vous voyez, toute une histoire, toute une tradition, n'est-ce pas, historique, mais qui est enracinée dans ce peuple. Vous voyez ? Et alors c'est là l'intérêt de voir tout le point de vue, au fond, de nous rappeler tout ce, au fond, cet Ancien Testament, vous voyez, où c'est d'abord un peuple élu, avec les 12 tribus, hein, puis la première captivité, hein, au fond, quand Joseph vient se réfugier en Égypte, n'est-ce pas, et le premier aspect du peuple distinct de la grande famille, qui va apparaître avec Moïse, hein, en tant que Moïse sera d'abord un sauveur, hein, vous voyez, au fond, et que c'est comme sauveur qu'il va commencer à donner à cette grande famille une nouvelle situation d'un peuple, vous voyez, et qui montre très bien la différence, vous voyez, le rôle du père et le rôle du sauveur est différent. Hein, vous voyez, et Moïse, on voit très bien, Moïse, c'est par la force, en quelque sorte, de sa volonté, c'est comme un vrai prophète, hein, qui a une grâce nouvelle, qui devient l'image du sauveur. Vous voyez, et avant d'être le législateur, il est le sauveur. Et c'est sous cet aspect-là, surtout, vous voyez, qu'il est l'image de Jésus. Hein, vous voyez, bon, mais il reste que, à travers ces épreuves, comme c'est dans la providence de Dieu, hein, cette grande famille devient un peuple. Hein, vous voyez, au fond, marqué, on le retrouve maintenant. Voyez, prenez en Pologne. Voyez, les épreuves font, eh bien, soudent le peuple. Hein, il y a quelque chose de plus dans le peuple que simplement dans la famille. Vous voyez, au fond, ceux qui ont connu, qui ont été dans les pays occupés, bon, qui ont connu savent comment, en réalité, quand on a été... Enfin, c'est tout le rôle, en même temps, de l'armée, si vous voulez, de la résistance, tous les aspects que ça joue, au fond, et qu'on le voit très bien dans le peuple, l'histoire du peuple juif, vous voyez, et qui ajoute tout un point de vue d'adolescence, si vous voulez. Vous voyez, le sauveur, c'est souvent un frère aîné. Le sauveur, c'est quelqu'un de... Au fond, ça implique d'avoir toute la force de l'adolescence. Vous voyez, pour être capable de sauver ses frères. Hein, vous voyez, toute une nouvelle dimension. Hein. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, après, Moïse aura ce grand rôle au fond, de législateur. Et puis, il y aura ses rois. Hein, qu'à regret... Mais cependant, ces rois sont toujours l'objet d'une prédilection de Dieu. Et ça, je crois que c'est très, très important si nous le rappelons maintenant. Vous voyez, c'est très mystérieux quand on regarde l'histoire sainte. Les prophètes n'ont jamais voulu, hein, que le peuple juif se présente comme un empire. Hein. Et les prophètes ont toujours réagi contre cette notion d'empire. N'est-ce pas ? Vous voyez ? Et au fond, était dur même pour les rois, s'ils avaient un petit peu ces attitudes-là, vous voyez. Et au fond, Salomon, hein, pourquoi est-ce qu'il sera présenté comme un roi, enfin, une sagesse extraordinaire, puisque la reine de Saba ira pour le consulter, hein, que notre Seigneur le rappelle, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez assez remarqué, vous voyez que au fond, quand ce peuple libéré de la servitude, mais veut se croître, veut se développer comme peuple, au fond, Salomon qui sait l'orienter vers le travail, en particulier vers l'architecture, vous voyez ce grand temple qui va être construit. C'est bien que les énergies de ce peuple, elles ne vont pas se gaspiller, je dirais, dans des guerres de rapines. Bon, elles vont savoir s'organiser dans une vie civile, si vous voulez. Vous voyez, prenez la loi de Moïse. Hein, comparez-la avec la législation d'Hitler. Hein, parce que je pense que c'est... Bon, dans la loi de Moïse, vous voyez, il y a le décalogue, il y a tout ce qui est dit au point de vue de la loi pour le pouvoir civil et puis pour la religion. Bon, il n'y a pas, comme il y avait au fond, une espèce de privilège pour les militaires. Hein, vous voyez, et au fond, c'est là alors qu'on trouve tout de suite l'aspect des dictatures militaires. Et l'aspect, au fond, vous voyez, au fond, où sont les privilèges ? C'est pour le point de vue religieux, pour le culte de Dieu. Et c'est ce culte de Dieu qui va cimenter l'unité. Au fond, c'est le temple qui sera la grande construction. Vous voyez, Salomon n'établit pas son palais. Mais c'est d'abord, c'est avant tout le temple de Dieu. Vous voyez, et ça, c'est voulu vraiment par Dieu. Bon, qui devient comme le symbole de tout ce peuple, qui donne du travail à tous ces qui leur permet de se développer, de se... Vous voyez, là, il y a là quelque chose de très, très frappant. Hein, parce que, vous voyez, prenez chez les Romains, hein, au fond, la Légion, c'est pas tous les privilèges qui étaient donnés, au fond, de citoyens romains, la plupart du temps, par le point de vue militaire. Hein, vous voyez, prenez dans presque tous les peuples de l'Antiquité. Bon, et quand vous lisez Homère, tous les récits, la plupart du temps, ce sont des victoires militaires qui constituent les grandes victoires. Dans l'histoire d'Israël, il n'y a que l'aspect défensif. Hein, au fond, où tout simplement au début, mais de façon très très simple, la terre que Dieu leur a assignée, leur a promis, la terre qui a été donnée par Dieu, bon, ils peuvent la prendre. Hein, vous voyez, mais ensuite, bon, c'est la défense. Et au fond, vous voyez, ces rois sont présentés justement comme déjà des défenseurs de la justice ou de ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu. Vous voyez, je pense que tout petit exemple, dans la loi de Moïse, vous voyez, il y a toute une loi pour. Alors qu'à peu près partout dans les législations, il y a des privilèges pour l'armée. Et alors qui constituera la noblesse, qui constituera tout ce que vous. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors, au fond, l'effort qu'il y aura dans nos pays modernes, en France par exemple, ce ne sera peut-être pas l'armée qu'on mettra en lumière après la Révolution, pas que Napoléon l'aura mis très fort, n'est-ce pas ? Mais on pourra remettre, ce seront les savants, hein ? Ou ce sera l'académie. Bon, ce sera, vous voyez, alors que vous voyez dans le peuple juif, tout cet aspect du culte de Dieu, tout l'art doit être avant tout au service de Dieu. Bon. Tout ce développement du peuple d'Israël implique aussi tout un point de vue de la diaspora. Ce sera très, très, très important. Ce peuple fécond, il se répand un peu partout. Vous voyez ? Et remarquez, on retrouve dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du monde. Vous voyez, quand j'étais en Italie, ça me frappait beaucoup. Parce qu'au moment, je me rappelle quand j'étais en Italie au moment de la libération, quand les Américains sont venus en Italie, mais c'est curieux. Ils sentent tout à l'aise en Italie. Les Italiens les reçoivent si bien. Alors qu'au fond, souvent les Français n'ont pas été tellement, ils n'ont pas tellement compris, ils n'ont pas tellement bien reçus. Pourtant, ils sont sacrifiés de façon extraordinaire sur la, en Normandie pour venir. Au fond, il y a eu toute une générosité, comme on l'avait trouvé dans la guerre de 14-18. Bon. Et puis en y réfléchissant, j'ai rendu compte que c'est oui, mais c'est qu'il y a énormément d'Italiens. C'est pas à New York. Bon, il y a énormément d'Italiens aux États-Unis, alors qu'il y a très 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 peu de Français. Alors que par le fait même, il y a des liens très forts entre l'Italie et l'Amérique, dans le peuple, par le fait même qu'il y a beaucoup moins avec les Français. Bon, les Français avaient des empires, comme les Anglais, hein, et ils ont voulu avoir eux-mêmes. Ces empires, ça n'a pas toujours attiré des amitiés. Hein. On voit très bien, au fond, lisez les communications hein, des évêques africains dans les synodes. C'est très, très significatif. Hein. Vous voyez, ils disent qu'au fond, ils ont beaucoup reçu l'Occident, mais par les missions. Alors là, ils ont une grande reconnaissance. Mais ils n'ont pas la même reconnaissance au point de vue des pays qui les ont colonisés. Hein, et qui n'ont pas toujours établi un équilibre entre eux. Vous voyez, alors, ça va loin, vous voyez. Parce que Dieu n'a pas voulu que son peuple d'Israël soit un grand pays. Mais un petit pays, mais où par le fait même, il y a une diaspora très forte. Hein, comme il y a eu en Irlande, comme il y a en Italie, comme il y a au fond d'aller. Vous voyez, et que par cette diaspora très forte, bien, l'évangélisation soit préparée. Parce que quand vous lisez le récit des Actes des Apôtres, hein, on voit que ben c'est vrai, ils vont à Corinthe, c'est vrai qu'ils vont à Rome, c'est bien, ils vont dans d'autres endroits que la Judée et que la Palestine. Mais ils rencontrent partout des petites colonies juives. Et au fond, ces juifs de la diaspora sont la plupart du temps, eux, les premiers qui reçoivent les prophètes qui viennent. Alors, ça nous montre très fort, vous voyez, que ce peuple élu, vous voyez, où justement, au moment où il y a des philosophies qui s'acharnent contre ce peuple, dans ce qu'il a, justement, pourquoi est-ce qu'il, en fait, si vous voulez, les juifs, vous voyez, vous avez des juifs qui sont en France depuis je ne sais pas combien de temps, bon, ben, et qui reste juif tout de même. Bon, est-ce que vous allez dire, oh ben ça, c'est pour ça, ils ne savent jamais s'assimiler, ou bien de voir que peut-être c'est le seul peuple qui est appelé un peuple élu. Ben, et qui ont à rester comme des témoins de cette promesse de Dieu. Ben, je crois que je l'ai déjà raconté, mais je trouve que c'est toujours très très amusant. Hein, le père de Ménage, hein, qui avant sa conversion, était un père dominicain, mais qui avant sa conversion avait été un sioniste ardent, hein, il citait toujours, il disait que le juif rencontrait un chinois, hein, et alors le juif disait au chinois, mais combien est-ce que vous êtes? Alors déjà le chinois à ce moment-là, il disait, je ne sais plus, 400 millions de personnes, ah tiens c'est curieux, pourtant moi j'ai voyagé partout et j'ai rarement rencontré des chinois. Et puis, tandis que nous, on est un tout petit pays, mais partout où j'ai été, j'ai rencontré des juifs. Et comme ce peuple destiné à être universel, par les desseins même de Dieu, de préparer l'avenir de notre Seigneur. Vous voyez ? Alors, vous voyez comme il faut faire attention, parce que le démon cherche toujours, vous voyez, bon, que quelqu'un... On comprend peut-être qu'il faut agacer, dire, mais enfin, ces juifs, on les trouve partout, ils sont, enfin, ils sont, et partout, ils ne sont pas faits, enfin, on ne les trouve pas pour les tâches, enfin, très humbles, enfin, on ne les trouve pas comme, pour faire les routes, il n'y en a pas beaucoup dans ces, ben, ils ont toujours des places, au fond, ils sont intelligents, enfin, et puis, au fond, ils sont dans la philosophie, on les rencontre tout le temps, partout, vous voyez, bon, faire attention de ne pas toucher, peut-être à des privilèges comme peuple élu, dans leur race même, hein, comme un peuple, mais que Dieu non seulement, vous voyez, a voulu que dans sa chair, et bien c'est ça qui est tellement mystérieux, que Dieu nous fait comprendre de plus en plus depuis l'incarnation, hein, ce rôle du corps par rapport au cœur. Donc, ce peuple, ben oui, c'est vrai qu'il y a un corps qui a été formé de façon particulière, au fond, qui a été, au fond, et alors quand on les rattache tout de même à cette conception hein, qui a été le fruit de la foi et de l'espérance, ben, au fond, que Sarah la vieille a eu tout de même un fils, ce fils Isaac, tout de même qui est un, ce père de ce grand peuple, n'est-ce pas, tout de même qui, ben, un homme tout de même extraordinaire, n'est-ce pas. Et puis qu'on voit que ce peuple a été formé, hein, il a eu une loi, hein, tout de même qui est assez extraordinaire. Vous voyez, je vous disais il y a quelque temps, au cours du matin, vous voyez, c'est très curieux quand on voit dans saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin, au moment où il vivait, au XIIIe siècle, n'est-ce pas, dans les universités. Bon, les seuls philosophes qu'il y avait à ce moment-là, en dehors des chrétiens, n'est-ce pas, c'était les commentateurs d'Aristote, Platon, juif ou arabe ou musulman. Hein, voyez, c'est les deux seuls bon, qui avaient su rester, qui avaient une civilisation, qui étaient formés. Voyez, et en comparaison de la civilisation musulmane, la civilisation juive nous apparaît tellement plus éminente. Voyez, et qui a apparu encore dans la guerre de c'est que au fond, il n'y a presque jamais de parole de haine chez les juifs. Peut-être très dur dans leur défense. Voyez, mais on sent que, formés par la loi, ne veulent pas prendre ces paroles de haine. Hein? Bon, bien sûr, ils pourront, dans leur défense, reprendre des termes dent pour dent, œil pour œil, n'est-ce pas, et ne pas reconnaître que Jésus leur demande est venu pour établir quelque chose de nouveau. Voyez, mais il n'y aura pas cette notion de la guerre sainte qu'il pourrait y avoir dans, chez les musulmans. Voyez, alors, je crois que. Vous voyez, dans ce moment de ce synode de la famille, vous voyez, où l'Église nous oblige de voir, vous voyez, à la fois ces deux aspects qu'il y a de très grands dans la famille, hein, et que nous regardons à la lumière de Marie. Hein, il y a le corps, c'est vrai, d'avoir au fond ce rôle de nos parents, hein, mais cette reconnaissance, toujours avoir pour eux. Vous voyez, le souci que nous devons toujours avoir vis-à-vis des pauvres quand ils sont près de nous, leur faire aimer, reconnaître qu'ils doivent avoir une reconnaissance à leurs parents, même si les parents les ont abandonnés, même si ils leur ont donné la vie. Hein, avec, rappelez-vous ce que je vous disais la dernière fois, les paroles de Monseigneur Desmaziel, n'est-ce pas, quand il a fêté l'anniversaire, le 20e anniversaire de sa consécration épiscopale. Hein, cet acte de reconnaissance après Dieu à ses parents. Vous voyez, et puis, en même temps, vous voyez, de ces traditions de famille. Hein, vous voyez, de toute une espèce de formation par une tradition de famille. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce peuple juif, hein, c'est qu'il a une langue, hein, vous voyez, et il a des écrits hein, bien, qui forment ce peuple. Alors, vous voyez tout de même, c'est là que nous avons quelquefois à battre un peu notre mea culpa. Hein? Vous voyez, parce que, remarquez, c'est tout de même très différent d'être formé par l'Ancien Testament, hein? Ou d'être formé par Jules César, enfin, par tout ce qu'on peut lire, et que nous avons quelquefois trop lu, hein, sur l'Antiquité romaine ou sur l'Antiquité grecque. Vous voyez, au fond, c'est pas du tout la même conception des choses. Au fond, c'est beaucoup plus opposé au christianisme. Alors, au fond, vous voyez, il y a toute une, je pense, il faut profiter de ces événements, puis de demander au bon Dieu, vous voyez, parce que c'est ça la véritable attitude chrétienne. Vous voyez, ni le chrétien y est beaucoup plus ouvert que n'importe qui, parce qu'il sait que sa foi, son amour doit éclairer sa foi. Vous voyez. Et au fond, qu'on a tous à tâcher de rectifier. Et en même temps, vous voyez, de souffrir tant, c'est pas désirer tant la conversion des Juifs. C'est vrai. Vous voyez. Et au fond, dans la situation actuelle, par exemple, du Moyen-Orient, on va voir tous nos pèlerins qui vont revenir de Jérusalem. Vous voyez, ben, il faut profiter de leur retour. Vous voyez, mais au fond, il y a une telle souffrance et de voir ces pays qui s'opposent tout autour de Jésus, de la mort de Jésus. Et qu'en même temps, il n'y aurait de solution pour eux au point de vue temporelle que s'ils acceptaient au moins l'esprit chrétien. Il n'y a plus que l'esprit chrétien qui peut résoudre leurs questions. On voit bien, ce n'est pas possible autrement. Vous voyez ? Quand on voit. Et c'est dans ce sens-là, vous voyez, que notre esprit chrétien doit nous aider à ne pas nous désintéresser des éléments du monde et en tâchant de les voir à la lumière de Jésus. Alors, un tout petit mot maintenant, pour achever sur la famille, la Sainte Vierge et la famille. Vous voyez, donc c'est déjà toute cette famille de l'Ancien Testament, vous voyez, toutes ces richesses qu'il y a dans les patriarches, tout ça, qui nous font demander à la Sainte Vierge, à la lumière de Marie, de revoir. Alors, avec la naissance de Marie, vous voyez, c'est la première fête de Marie après l'Immaculée Conception, c'est la fête de la naissance de Marie. Si l'Église a maintenu cette fête de la naissance de Marie, vous voyez, bien qu'on n'ait aucun texte, vous voyez, il y a des textes pour la naissance de l'enfant de Jean-Baptiste, mais il n'y a pas de texte pour la naissance de Marie. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, vous voyez, il y a rien. Mais l'Église aime fêter cette fête. Parce que quand Marie va naître, et la toute petite enfance de Marie, par le fait qu'elle est immaculée et qu'elle a une plénitude de grâce, ça va être une naissance tout à fait différente de toutes les autres naissances. Vous voyez, au fond, Jésus seul va naître aussi comme le Fils de Dieu, la naissance du Fils de Dieu. Vous voyez, mais toutes les autres créatures, quand nous naissons comme des enfants de colère. Nous naissons, au fond, sans la grâce de Dieu. Au fond, notre naissance naturelle et puis notre baptême, il y a la différence entre les deux. Vous voyez ? Et au fond, et cette différence justement entre les deux montre que nous aurons à nous purifier pendant très très longtemps. Vous voyez, de tout l'apport qu'il y a dès notre naissance qui n'est pas rectifié. Vous voyez, toutes les purifications passives dont parle Saint Jean de la Croix, hein, un tellement grand rôle, vous voyez. Et au fond, c'est surtout dans la vieillesse qu'on s'en rend compte. Vous voyez, parce que c'est toujours la fin qui fait revenir au début. Vous voyez, et dans la vieillesse, quand le bon Dieu vous donne la grâce de faire un peu votre purgatoire sur la terre, vous voyez, et découvrir un petit peu vous-même, bon, les autres vous y aident beaucoup, mais enfin, découvrir un petit peu vous-même vos défauts, n'est-ce pas? Bon, dans la vie commune, ben c'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui sera, au fond, qui mettra le doigt, au fond, et qui saura très bien vous faire connaître votre défaut dominant, celui que vous avez essayé le plus de cacher, peut-être même sans vous en rendre compte. Ben, il y a toujours quelqu'un, au fond, pour vous le dire. Et là, le bon Dieu permet quelquefois des espèces de clairvoyance du démon, ben, pour purifier ses enfants, purifier ses élus. Parce que c'est vrai, dans les intuitions, il y a les intuitions de l'Esprit-Saint qui sont extraordinaires, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des espèces d'intuitions de la haine qui sont très mauvaises aussi. Et alors là, c'est le démon qui est là. Vous voyez, bon, au fond, il est sûr que les gens qui sont très empathiques, ils ont comme un espèce de talent pour découvrir les défauts de ceux qui n'aiment pas. Ben, vous voyez, bien sûr, quand on aime vraiment le bon Dieu, ben, on voit beaucoup plus profondément, et ce n'est pas un regard superficiel, ce n'est pas la simple sympathie humaine, top autre chose. Vous voyez, bon, on voit même beaucoup plus profondément celui qui voit le mal. Mais hélas, il faut reconnaître quelquefois, c'est pareil, c'est là la force, vous voyez, dans la psychanalyse et tout ça, qui dira quelquefois, ben oui, mais quelquefois les gens qui n'aiment pas sont plus clairvoyants que des gens simplement optimistes, bon, qui voient les choses de façon très superficielle. Vous voyez ? Alors, je dis ça, c'est pour montrer qu'il y a un domaine immense de purification qui sont nécessaires pour nous. Et alors ce mystère, vous voyez, cette naissance de la toute petite Marie, hein, vous voyez, elle qui est sans le péché originel, hein, et que comme le bon Dieu a voulu qu'elle soit sanctifiée dès sa conception, hein, c'est pour que pendant tout le temps où elle a été portée par Anne et Joachim, ben, ça impliquait des grâces aussi pour Anne. Ben, parce que, au fond, si bon Dieu ne fait pas de miracle, ben, il veut demander aussi à Anne, au fond qu'elle ait porté Marie avec des grâces toutes spéciales, comme une mère qui, au fond, qui savait éviter, qui était sanctifiée par sa petite Marie qu'elle portait en elle, au fond, qui le transformait, cette petite, au fond, était l'objet d'une prédilection du Saint-Esprit. Bon. Et alors, le grand mystère de Marie, vous voyez, c'est qu'elle va naître réellement avec une conscience mystique. Vous voyez, sa Marie, c'est pourquoi elle est la mère de l'Église. Hein? Parce qu'elle est la seule, vous voyez, dès sa naissance, va vraiment, toute sa vie va être sous le signe mystique. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'elle va vivre une vie mystique tout le temps, mais la racine, la source de toute sa spiritualité viendra d'expériences mystiques. Vous voyez, bon, et parce que justement, toutes ces expériences, toute sa spiritualité viendra d'expériences mystiques, Marie sera en même temps celle qui sera capable, quand le bon Dieu suspendra un peu, comme à l'Annonciation, par exemple, vous voyez que dans une permission, la présence du bon Dieu sera comme suspendue un moment. Bon, sa foi et son espérance en permet de rester très fort. Vous voyez, au recouvrement, en même temps, elle ne fera pas de faute. Voyez, parce que justement, cette vie mystique est si profonde en elle. Alors, cette naissance de la Sainte Vierge va avoir un rôle très, très, très important. Vous voyez ? Et ça nous fait comprendre tout de suite aussi, ça oblige de voir que Anne et Joachim, pendant toute l'enfance de Marie, vont avoir un rôle très grand aussi pour la former. Et alors, vous voyez, ça nous fait comprendre ce qui a été dit par certains pères dans le synode, que pour comprendre la famille chrétienne, certes, elle insiste avant tout sur la toute petite famille, vous voyez, au fond, parce que tout est groupé autour du sacrement de mariage. Vous voyez, elle insiste énormément sur l'importance des liens entre le cœur et le corps. Hein. Donc, elle donne à la maman qui porte son enfant un rôle tout à fait extraordinaire. Mais en même temps, vous voyez, parce que par les desseins du bon Dieu, il y a une harmonie entre ce corps, cet esprit, et puis les traditions, et puis l'histoire de ce peuple qui est conduit par Dieu. Vous voyez, donc, la grande famille joue aussi un rôle très très important dans l'Église de Jésus. Vous voyez, et Dieu a voulu de façon spéciale les grands-parents. Hein, les grands-parents jouent un rôle très grand. Parce que Anne et Joachim, ce sont les modèles des grands-parents. Hein, vous voyez, et c'est la famille avec ses grands-parents qui, pour un chrétien, joue un rôle, et ses grands-parents, vous voyez, jouent ce rôle de témoin. Hein? Mais alors, avec les grands-parents, vous voyez, c'est pas simplement... Il y a les grandes-tantes aussi. Hein? Bon, et puis, dès qu'on prend le point de vue des grands-parents, vous voyez, ça implique tout de suite le rôle des tantes, hein? Et des oncles aussi. Hein? Parce que, en fait, vous voyez, ce sont les frères et les sœurs de la maman. Hein? Et aussi ont un rôle. Et au fond, et des deux côtés, du côté de la maman et du côté du papa. Vous voyez, alors, la famille, à la lumière de Marie, vous voyez, mais elle prend toute une force extraordinaire. Vous voyez, et quand nous la regardons à la lumière de tout cet Ancien Testament, hein, mais ça jette une lumière très très grande. Vous voyez, et au fond, ça vous rappelle, n'est-ce pas, toutes ces appellations. Nous sont devenus un petit peu des, qu'on répète comme ça, un peu sans faire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, n'est-ce pas ? Vous voyez, au fond, toutes ces générations, tous ces grands-grands-parents, premiers, et au fond, qui commandent toute cette histoire, vous voyez ? Et que Marie, elle, au fond, pendant sa toute petite enfance, bon, quand après elle a été à la synagogue, mais déjà Anne et Joachim, lui apprenaient, vous voyez, tout cela. Alors, vous voyez la grande seconde étape, mais ça je verrai la prochaine fois parce que je vois que l'heure avance, n'est-ce pas ? C'est qu'on verra la Sainte Vierge avec l'Annonciation. Vous voyez ? Mais avant l'Annonciation, l'Église fait la présentation de Marie au Temple. Hein ? Mais nous verrons ça un petit peu dans notre théologie cette année, mais je pense que c'est bon déjà un petit peu de... Pour cette fête, avec le rosaire, vous considérez, vous voyez, la présentation de Marie au temple, si nous voulons tâcher de le situer un petit peu, vous voyez, parce qu'encore là, dans l'Écriture, on n'a rien. Il n'y a que des traditions. Et puis des textes, mais ils sont apocryphes. Hein? Bon. Et je crois que pour le rattacher, vous voyez, c'est comme à l'âge de raison, la Sainte Vierge. Hein? Vous voyez, au moment où en nous, n'est-ce pas, notre raison, c'est-à-dire que commence à qu'on découvre qu'on est un être, hein, qui peut se développer, se choisir, décider lui-même. Il n'est pas simplement un être destiné à obéir à ses parents, hein, mais que lui-même a discerné l'obéissance, c'est ça que Dieu lui demande. Vous voyez ? Alors, vous voyez que dans la vie chrétienne, hein, bon, ça arrive très souvent qu'il y ait des vocations, il arrive bien avant qu'on soit adolescent. On est enfant, dans la toute petite enfance, il y a bien des vocations. Alors, c'est très doux de voir que Marie, hein, dès l'âge de raison, dès qu'elle a senti qu'elle pouvait, c'était le moment, elle-même, de prendre sa décision. Non, elle a été au temple. Ça n'implique pas qu'elle ait demeuré au temple, mais elle a voulu, dans un geste, montrer qu'au fond, c'était pour les choses de Dieu qu'elle était avant tout. Enfin, pour elle, son choix était très net. Enfin, sa vraie demeure, ça va être la demeure de Dieu. Au fond, les occupations qu'elle voulait, c'était avant tout les occupations autour du sacré. Vous voyez qu'au fond, dans son peuple, au fond, c'était au fond la place que tenait le temple. Vous voyez ? Alors c'est pour ça que c'est le jour de la présentation de Marie au temple que à Saint-Sulpice, hein, M. Ollier a voulu que ce soit à ce moment-là que ces prêtres, ces séminaristes se consacrent à Marie. Vous voyez ? Pour qu'en fait, ils aient bien cet esprit, vous voyez, de famille de l'Église. Mais ce choix, mais qu'avant tout, ils sont faits pour tout ce qui est sacré. Hein? C'est là, au fond, c'est la grande. Ils ne sont pas faits pour le profane. Ils veulent avant tout être à ce service de Dieu. Hein? Alors nous continuerons. Vous voyez un petit peu la prochaine fois, à moins qu'il y ait des documents du pape nouveau que nous ayons commentés, ou bien nous verrons comment cette famille, hein, avec l'Annonciation, va trouver des notes toutes nouvelles. Hein? Et puis ensuite, avec la Pentecôte, parce qu'il y a trois grandes étapes de la vie de la Sainte Vierge, vous voyez, n'est-ce pas, la vie avant l'Annonciation, la vie avec Jésus dans le mystère joyeux et douloureux, et puis la vie eucharistique de Marie dans l'Église, vous voyez.